question.
Bonsoir, Jacques Beaufort avec Olivier Flournois. Vous êtes médecin, psychanalyste, Olivier Flournois, et vous venez de publier un livre intitulé « Le temps d'une psychanalyse » dans lequel vous avez écrit « Au fil des lignes, insensiblement, je me suis pris au jeu et n'ai pu éviter d'y introduire mon temps, mon existence de psychanalyste, mon roman analytique. J'ai découvert mes deux grands-parents, ils s'appelaient Sigmund et Mélanie. » Vous faites allusion bien sûr à Sigmund Freud et Mélanie Klein, mais concrètement, quelle psychanalyste êtes-vous? De qui vous sentez-vous réellement l'élève? Car vous parlez plus loin de tante Anna, oncle Jacques, oncle Raymond et tante Françoise. Alors
Ce que je dirais, c'est que je ne crois pas que je sois précisément l'élève de quelqu'un de particulier. Ce que j'ai voulu dire à travers ceci, c'est que je me rattache à la pensée de Freud, qui je crois a gardé absolument toute sa valeur avec le temps qui passe, que j'ai été confronté avec les idées de Mélanie Klein, surtout à Genève, mais que comme élève, j'ai plutôt eu une éducation psychanalytique, on pourrait dire, assez mélangée, avec tous ces oncles et ces tantes dont je vous ai parlé, et qui m'a, je pense, été utile dans le sens que je ne me sens rattaché à aucune école, même si j'ai participé à l'activité et à la vie de plusieurs écoles de psychanalyse.
Mais vous reconnaissez à Freud un rôle de pionnier ?
Alors tout à fait. Absolument, je ne crois pas du tout qu'on puisse penser que la psychanalyse ou qu'on puisse dénaturer la psychanalyse en disant que Freud n'en est pas à l'origine. Et je crois que les gens l'ont bien compris, et je citerai par exemple Jung, dont on a beaucoup parlé en Suisse, quand il a quitté le mouvement psychanalytique, a cessé de s'appeler psychanalyste pour dire qu'il faisait de la psychologie analytique, donc il a introduit une nuance, et je pense que le terme de psychanalyse se réfère quand même fondamentalement à on pourrait dire au successeur de Freud.
À travers les différents courants en fait, qui agitent le monde analytique, alors avez-vous découvert une voie personnelle, si je puis dire, Olivier Flournois ?
Bien, je crois que c'est ce que je tente de faire dans ce livre. Je pense que là, on peut peut-être distinguer un livre écrit par un écrivain d'un livre écrit par un psychanalyste. Je ne suis bien entendu pas écrivain. On appelle l'écriture des psychanalystes de la psycholittérature, c'est un terme employé notamment par un écrivain, Bernard Pingot, et je crois que la psycholittérature se distingue de la littérature en ceci que dans l'œuvre que j'ai écrite, visiblement, sans aucun doute, je transparais, et j'y suis, et c'est de moi qu'il s'agit. Alors que j'imagine qu'un écrivain essaye de se déplacer complètement dans l'œuvre au point que l'écrivain disparaît et que seule l'œuvre compte pour lui après coup. Donc, pour répondre à votre question, je pense que je me personnalise à travers cet écrit.
Mais pourquoi ce besoin d'écrire chez les psychanalystes ?
Et pourquoi ce besoin de communiquer ? Je pense qu'il y a probablement plusieurs réponses, mais l'activité psychanalytique est une activité dans laquelle on est finalement extrêmement isolé, puisqu'on a affaire à des gens et à des problèmes tout à fait intimes, tout à fait privés, qu'il est très difficile de communiquer. D'abord, il n'est pas question de les communiquer, puisque on est lié par le secret professionnel, ce qui est évident. Mais néanmoins, ce sont des choses tellement, tellement personnelles qu'elles nous rétrécissent dans notre monde et qu'on a besoin de pouvoir non seulement communiquer avec les psychanalystes, mais aussi de temps en temps faire le point. Et je crois qu'à travers l'écriture, on est obligé de peut-être de solidifier ces idées. Et ça répond sûrement à un besoin dans la mesure où le psychanalyste est dans une atmosphère de mouvance perpétuelle. Il ne peut, du fait de son métier, jamais se rattacher à quelque chose de solide, à une doctrine, quoi qu'on ait souvent parlé des doctrines psychanalytiques, mais c'est du dehors qu'on en parle. De l'intérieur, il s'agit à tout moment de créer, de découvrir des sens à ce qui nous est dit, et on n'a jamais la solidité, la référence que pourraient avoir des gens dans des activités scientifiques ou des activités diverses. Et je pense que là, un livre correspond probablement à une sorte de mise au point. Une mise au point qui vaut ce qu'elle vaut et qui sûrement est temporaire et invite à poursuivre. C'est en somme un arrêt dans le questionnement continuel auquel on est livré comme psychanalyste.
Mais à qui s'adresse votre livre? Et en général, d'ailleurs, les livres de psychanalystes ne s'adressent-ils pas qu'à des spécialistes, donc qu'à d'autres psychanalystes?
Ah, vous me posez une question bien difficile. Comment est-ce que je vais répondre? Ben, je vais répondre d'abord, ce livre s'adresse à moi. Évidemment, ce n'est pas une réponse. Mais sûrement qu'il s'adresse, comme je l'ai dit, à mes amis, aux psychanalystes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, pour leur montrer quelle est ma façon de travailler et de penser, une communication que je leur adresse.
Il y a un certain orgueil au départ de chaque livre de psychanalyste. Sincèrement.
Sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'orgueil que dans chaque livre d'un écrivain ou dans chaque livre de quel qu'il soit. Bien sûr qu'il y a un plaisir à écrire, ça y est, aucun doute. Mais un orgueil, je ne crois pas du tout, non. Je pense que on peut très bien faire preuve quand même de modestie. L'orgueil, c'est peut-être une sorte de plus-value, le fait qu'on risque de voir ce livre dans une devanture de librairie, mais enfin c'est quand même quelque chose de bien modeste et de bien secondaire.
Selon Catherine Clément, qui a publié un livre il y a quelques années intitulé « Les fils de Freud sont fatigués », selon Catherine Clément, la psychanalyse aurait oublié sa fonction première, la thérapeutique. Qu'en pensez-vous? Et elle explique dans ce livre que les psychanalystes, en fait, ne font plus leur métier parce qu'ils ne pensent plus qu'à écrire.
Oui. Je dirais que le livre de Catherine Clément est un livre polémique. Et je ne partage pas son point de vue. D'autre part, c'est une... Elle ne dit même pas si elle est psychanalyste.
Elle ne l'est pas.
C'est une personne probablement engagée au point de vue politique. C'est donc une personne qui est assez loin des préoccupations psychanalytiques fondamentales, qui sont quand même des préoccupations vis-à-vis des gens qui viennent nous voir. Je crois qu'on n'échappe pas à ça, et que malgré tout, jour et nuit, les personnes qui viennent se confier à nous sont notre sujet central de préoccupation. Maintenant, Catherine Clément, bien sûr, réagit à certains mouvements psychanalytiques parisiens, notamment le mouvement de Lacan, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais je crois qu'elle réagit à quelque chose d'extérieur à la psychanalyse, justement au besoin de communiquer qu'ont les psychanalystes, au besoin de se disputer entre eux, au besoin de pouvoir se détendre et parler et discuter et sortir de leur état d'attention et de préoccupation pour leur... les personnes dont ils s'occupent.
Peut-on dire, Olivier Flournoy, que la psychanalyse souffre d'un esprit de chapelle?
Non, sûrement pas. Là, vous soutenez une critique que Piaget adresse volontiers aux psychanalystes.
Pas seulement Piaget, d'ailleurs.
Pas seulement Piaget. La psychanalyse à bon dos, elle est critiquée par beaucoup de gens, c'est son lot. Mais je dirais que à l'intérieur, de la psychanalyse, sûrement que l'esprit de chapelle que les gens peuvent voir du dehors se résout à autre chose. Et que quand entre psychanalystes, même d'écoles différentes, mais qui ont la même pratique, c'est-à-dire le même désir d'aider les personnes qui se confient à eux quand ils parlent ensemble, je crois que sur le fond, il est étonnant de constater comme on peut se retrouver et se comprendre, même si c'est à mi-mot.
Qu'est-ce en fait qu'un bon psychanalyste, selon vous, Olivier Flournoy ?
Ah, voilà une question embarrassante. J'aurais voulu que vous y répondiez vous-même, après tout, à cette question.
C'est vous qui êtes psychanalyste.
Oui, oui. Ben, vu du dedans, un bon psychanalyste, c'est un psychanalyste qui estime qu'il fait du bon travail, je pense. Et c'est un psychanalyste qui estime qu'il fait ce qu'il peut faire pour ses patients, qu'il a une certaine idée de ce qu'ils veulent, de ce qu'il désire faire. Et il me semble que la question est vraiment une question qu'on pourrait adresser aux moralistes. C'est une question éthique.
Mais pensez-vous, vous, par exemple, être un bon psychanalyste ?
Mais sans doute, bien sûr. Je crois que si je me considérais un mauvais psychanalyste, je mettrais la clé sous mon paillasson et je ferais autre chose.
Mais quelles sont, par exemple, les qualités qu'un bon psychanalyste doit absolument posséder ?
Les qualités qu'il doit posséder ? Eh bien, il doit posséder, je pense, un certain nombre de connaissances, tout de même, pour pouvoir comprendre ce que des gens qui viennent de différents milieux, de différentes souches, lui disent. Il doit avoir des qualités d'écoute, de patience, de bienveillance, et puis des qualités d'imagination qui me paraissent très importantes. C'est-à-dire que pour trouver le sens, un sens qui puisse être partagé entre la personne qui vient nous voir et nous autres psychanalystes, un sens à ce qui paraît à cette personne justement irrationnel ou incompréhensible et dont elle souffre, le psychanalyste doit pouvoir faire preuve d'une certaine facilité d'imagination tout en restant dans un cadre que les psychanalystes ont peu à peu défini entre eux. Et sans pour autant croire qu'il suffirait d'avoir une imagination sans frein pour pouvoir être bon psychanalyste.
Que pensez-vous des psychanalystes qui ne sont pas médecins ?
Je pense qu'ils sont tout aussi bons que les psychanalystes qui sont médecins. Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que la médecine est nécessaire pour faire la psychanalyse. Par contre, je crois que, à mon avis, il est indispensable, si on pense à la médecine, que le psychanalyste ait une connaissance des maladies mentales, c'est-à-dire qu'il ait pu vivre et côtoyer de près la maladie mentale et apprendre à s'approcher de gens, à parler avec des gens qui fondamentalement font peur. Parce que le grand malade mental est un personnage qui souffre et qui inquiète les gens. Et je crois que c'est très difficile de pouvoir s'occuper de psychologie et de psychopathologie si on n'a pas côtoyé de près ces gens pour savoir ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie dans l'activité psychique des personnes qui souffrent d'affections mentales.
Quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir psychanalyste vous-même, Olivier Flournoy ?
Alors ça, c'est une autre question. J'aurais envie d'y répondre à travers mon livre. Mais parce que la petite histoire n'a probablement pas beaucoup d'intérêt, il s'est trouvé que j'ai Alors que je faisais autre chose comme médecin, j'avais commencé à m'intéresser à l'ophtalmologie, puis à la physiologie. J'ai eu une place à l'hôpital de Seury. Bon, ça, c'est la petite histoire. Quand je suis arrivé dans le cadre de cet hôpital, où à l'époque, finalement, on ne faisait pas tellement de théorie, mais on était beaucoup en contact avec les personnes hospitalisées. Il m'a fallu 24 heures pour sentir que j'allais rester et que j'allais m'occuper de ces gens-là. Ça m'a tout de suite fasciné.
Mais que s'est-il passé, très concrètement? Pourquoi cette fascination?
Ça m'a tout de suite fasciné de voir des gens qui souffraient et qui étaient, je crois, fondamentalement incompris. Et j'ai eu l'impression que de les comprendre pouvait tout de suite transformer leur existence. Et alors j'ai eu quelques expériences qui m'ont encouragé dans cette voie. Parce que justement, grâce au contact, les jeunes médecins ou les personnes qui débutent avec les maladies mentales ont souvent des réussites comme on a dans la vie, des coups de chance qui sont très frappants avec ces gens-là.
Et vous avez eu ces coups de chance?
Oui, oui, j'en ai eu. Oui, oui. Je me souviens par exemple d'une. Alors là, c'était une autre occasion, c'était en Amérique. J'étais arrivé dans un hôpital dans le Kansas, à Topeka, où on m'avait nommé résident chez des grands malades. Et il y avait là une femme qui était enfermée, dont on disait qu'elle était très dangereuse et très violente. Et je parlais mal l'anglais, je venais d'arriver aux États-Unis. Et comme elle dépendait de moi, j'ai décidé d'aller la voir. Elle m'a tout de suite intéressé. Je me souviens de ma première entrevue, il y avait, je crois, 5 ou 6 infirmières derrière la porte, au cas où je crierais à l'aide. Et j'ai trouvé cette femme misérable, blottie dans son coin, qui a tout de suite éveillé en moi, je dirais pas de la pitié, parce que je crois pas que c'est ce que désirent ces gens, mais de la sympathie. Et on s'est très vite entendu. Et je me suis aperçu, à mon sens, qu'elle n'était pas psychotique comme elle était étiquetée, mais qu'il y avait un formidable malentendu, non seulement à l'hôpital, mais social, et que, à mon avis, elle était hystérique. Et je me suis occupé d'elle, et elle a rapidement évolué devant ce contact inattendu, et probablement ce contact maladroit, puisque je parlais mal l'américain. Et puis vous savez qu'en Amérique, tous les 3 mois, où il y a un jugement, on passe devant le juge pour confirmer l'hospitalisation, ce qui est une bonne chose. Et de la direction, j'avais donc reçu l'ordre de faire en sorte que cette patiente reste hospitalisée. Et quand je suis allé devant le juge, j'ai dit tout le contraire. J'ai dit que j'estimais qu'il y avait une méprise et qu'à mon avis, on pouvait la libérer. Revenu à l'hôpital, je me suis fait horriblement gronder par la direction. Mais cette femme est partie. Je me suis demandé ce qui se passait, ce qui se passerait, bien sûr. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que rentré en Suisse, l'année suivante, je vais faire du ski dans une station de sport d'hiver. Je tombe sur cette femme qui était en train de skier là dans la rue, qui me dit « Hello, docteur Flournoy » et qui me présente à son mari. Elle était mariée, elle était en vacances de ski là. Il y a des événements comme ça qui sont extrêmement frappants et qui nous poussent dans la voie de la... de l'investigation psychologique, donc qui nous engage aussi sur une certaine voie.
Thank you.
Vous décrivez dans votre livre le début d'une psychanalyse, Olivier Flournois. Quelle est généralement la démarche de celui ou de celle qui va voir un psychanalyste ?
Ah, il ne s'agit pas de mon livre à ce moment-là. Il s'agit de, professionnellement, de savoir qui a envie de faire un travail ou de se livrer à un exercice suffisamment important pour comprendre ce qui le handicape dans son existence. Je dois dire que ce sont des gens qui ont suffisamment conscience, peut-être pas de manière explicite, du fait que leurs problèmes et leurs difficultés sont dus à leur manière d'appréhender ou de voir le monde, et non pas à l'extérieur, au monde lui-même.
Mais le plus souvent, la personne qui va voir un psychanalyste, y va-t-elle de son plein gré ou poussée par quelqu'un ?
Tout à fait de son plein gré. C'est-à-dire que si elle y va poussée par quelqu'un, pour nous, psychanalystes, ça n'est pas ça n'est pas une bonne indication. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens qui viennent poussés par quelqu'un peuvent venir nous voir, on peut discuter. Et puis, ils peuvent, alors, plus tard, revenir spontanément. Mais s'ils sont poussés par quelqu'un, ils ne feront jamais, dans le sens psychanalytique, ils n'auront jamais l'étincelle nécessaire pour se soumettre eux-mêmes à une certaine discipline, à une certaine régularité et à un certain effort que demande et qu'exige la psychanalyse.
La psychanalyse est-elle aujourd'hui à la portée de chacun ? Car il fut un temps où elle était réservée, on peut bien le dire, à un certain milieu d'intellectuels ayant de l'argent de surcroît.
Alors, écoutez, vous me posez une question de savoir si elle est réservée à une élite, si je comprends bien. Bien sûr qu'elle est réservée à quelqu'un qui peut faire une psychanalyse, c'est évident. C'est certain que nous ne vivons pas dans des pays où l'économie dirigée permettrait que le psychanalyste soit payé par l'État et que le psychanalysé ait une assurance qui le rembourse à 100%. Ça n'existe pas dans notre milieu et comme il faut bien que le psychanalyste vive et que ça n'est pas, tout au moins pour moi, un apostolat, il faut bien que les gens qui viennent me voir aient les moyens nécessaires qui puissent permettre d'assurer mon existence.
La décision d'entreprendre une psychanalyse repose sur une entente à propos du temps, avez-vous écrit, Olivier Flournois. Qu'entendez-vous exactement par là ?
Eh bien, le temps, c'est finalement, la préoccupation, une de mes préoccupations majeures, qui est à l'origine de ce livre, parce que, dans le sens de votre question, je dirais qu'il faut que la personne qui vient faire une psychanalyse soit d'accord de consacrer un certain temps à cet exercice. Autrement dit, que par exemple, elle soit d'accord de venir 3 ou 4 fois, ou même éventuellement 5 fois, semaine, pendant un temps déterminé, par exemple 45 minutes, et ceci sans décider d'une date de fin de cure.
Et une cure peut durer parfois très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années.
Une cure peut durer plusieurs années, sûrement, oui, oui.
Mais comment débute une psychanalyse, très concrètement ?
Eh bien, très concrètement, je crois que c'est un peu comme je l'ai décrit dans le livre, c'est une entente à propos de problèmes concrets donc de problèmes matériels dont je viens de parler, et puis une demande faite à la personne qui vient faire une psychanalyse de parler sans contrainte de ce qui lui passe par la tête.
Et le premier entretien entre l'analyste et l'analysé est-il prépondérant ? Toujours ?
Non, nullement. Nullement. Non, les premiers entretiens sont destinés à estimer la situation, à voir si le psychanalyste est le psychanalysé ou le psychanalysant sont d'accord de faire ce travail l'un avec l'autre. Je ne peux pas m'engager à faire un travail de longue durée avec quelqu'un qui me paraîtrait foncièrement antipathique. Et bien sûr, à plus forte raison, quelqu'un qui vient chez moi, s'il ne m'apprécie pas, ne peut pas non plus s'engager à venir de manière durable. Donc il faut qu'il y ait quand même au minimum un consensus entre les deux personnes en cause pour se dire que, quels que soient les aléas et les événements à venir, on est d'accord de consacrer un temps indéterminé l'un à l'autre pendant sans fixer de date ou de qui puisse servir à justifier une interruption.
Et après un premier entretien, certains analysés ne reviennent-ils jamais ?
Ah, bien sûr, c'est évident, oui. Oui, et du reste, c'est souhaitable. Il n'y a aucune raison de penser que si quelqu'un vient voir un psychanalyste, s'entendre tout de suite avec lui. Et au contraire, c'est déjà, je pense, un bon signe si la personne est capable de dire non, ce psychanalyste ne me convient pas, je vais essayer d'aller en voir un autre. Et je crois que le psychanalyste digne de ce nom permet à la personne d'agir ainsi.
Pour qu'une analyse, en fait, réussisse, est-il indispensable qu'une confiance totale s'instaure entre l'analyste et l'analysé ?
Non, sûrement pas, puisque justement, les gens qui viennent nous voir peuvent souffrir d'une méfiance, par exemple, qui peut être leur symptôme. Alors, je pense qu'il y a une sorte de confiance non dite, si vous voulez, quelque chose qui peut être non explicite chez une personne foncièrement méfiante et foncièrement persécutée, par exemple, pour qu'elle accepte quand même de venir chez tel ou tel psychanalyste.
Mais pendant toute la durée, en fait, d'une analyse, quels sont les rapports, alors, qui existent entre l'analysé et l'analyste ? Est-ce que ce sont, par exemple, des rapports semblables à ceux que peuvent avoir un malade et un médecin ?
Je pense qu'on dépasse rapidement le rapport de malade-médecin. Je pense qu'il est, il s'établit une sorte de rapport que j'ai appelé dans mon livre intersubjectif, où le psychanalyste s'efforce de n'avoir pas l'autorité du médecin et où le malade perd sa qualité, que peut-être il aimerait garder, de malade, pour être un sujet qui s'intéresse à ses problèmes sans pour autant se croire malade.
Mais l'analyste, selon vous, doit-il avoir un rôle actif ou passif ? Doit-il intervenir ou bien écouter sans rien dire ? Comment vous-même pratiquez-vous ?
Je dirais que d'écouter sans rien dire peut être actif aussi. Si vous considérez que passif a un sens péjoratif, ce qui n'est pas sûr, je ne sais pas ce que cache votre question, mais que l'activité de l'analyste peut aussi être une activité d'écoute, une activité d'attention, une activité de réflexion qui n'implique pas qu'il parle à bâton rompu ou qu'il intervienne. L'analyste n'est pas directif, il ne donne pas des conseils. C'est de nouveau ce que j'essaie de dire peut-être dans mon livre, le côté herméneutique de l'analyste ou de l'analyse, c'est l'idée de découvrir des sens qui puissent être partageables, qui puissent faire que les deux personnes ensemble puissent s'entendre à propos de, on pourrait dire par exemple, de conduite qui, chez l'analysé, provoque à l'extérieur sans arrêt des conflits, des déceptions, des difficultés.
Mais vous, vous intervenez souvent, en général ?
J'aime bien parler, sûrement, mais je m'en abstiens quand j'estime que c'est nécessaire, ce qui fait que je ne sais pas, je ne peux pas comparer avec d'autres gens, je ne sais pas de nouveau ce que, quelle est l'idée que vous aimeriez que je dise, enfin à quoi vous voudriez que je réponde. Si vous estimez qu'intervenir, c'est parler beaucoup, c'est parler...
Oui, voilà. Plutôt parler beaucoup, bien.